إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما دي le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a pris par les épaules et m'a dit: sois dans ce bas monde comme si tu étais un étranger ou un voyageur. Et Ibn Umar رضي الله تعالى عنهما disait: lorsque tu atteins le soir, n'attends pas le matin. Et lorsque tu atteins le matin, n'attends pas le soir. Profite de ta santé avant ta maladie et de ta vie avant ta mort. Rapporté par Al-Bukhari. Donc comme vous le voyez mes frères, il y a dans ce hadith une exhortation immense adressée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à ce noble compagnon, Abdullah, le fils de Umar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhumah. Ibn Umar nous dit donc que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a pris par les épaules, et ce, afin d'attirer son attention, et que Ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhumah, soit concentré sur ce qu'il allait lui dire. Puis il lui a adressé cette exhortation. Sois dans ce bas monde comme si tu étais un étranger ou un voyageur. L'étranger, c'est celui qui se trouve dans une contrée qui n'est pas la sienne, dans laquelle il ne cherche pas à s'établir définitivement, mais il peut y être pour un besoin religieux ou mondain. Il va donc s'installer dans cette contrée de façon temporaire, car cette contrée n'est pas la sienne. Et le voyageur, en aucun cas, il ne s'établit dans les contrées qu'il traverse. Mais il ne fait qu'y passer, sans s'établir dans celle-ci. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit donc dans cette exhortation, sois dans ce bas monde comme un étranger, ou plus encore, comme un voyageur. Et ceci est un encouragement et une incitation de la part du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à ce que nos cœurs ne soient pas attachés à ce bas monde. Il nous encourage ici à faire preuve d'ascétisme, à ce que nos cœurs ne soient pas attachés à ce bas monde. Car il faut savoir qu'aussi longue soit ta vie dans ce bas monde, tu t'en sépareras inévitablement. Comme il est venu dans la recommandation de Jibril alayhi salam au messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il lui a dit « Vis autant que tu veux, tu vas certes mourir. » Et ceci est une réalité pour toute personne parmi les enfants d'Adam. Nous finirons tous un jour ou l'autre par quitter ce bas monde. Alors s'il en est ainsi, pourquoi s'attacher à celui-ci? Pourquoi lier ton cœur à ce bas monde qui n'est qu'éphémère? Suis plutôt cette recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui te dit ici d'être dans ce bas monde comme un étranger. L'étranger se trouve dans une contrée qui n'est pas la sienne. Personne ne le connaît, il ne connaît personne. Il ne cherche pas à s'établir définitivement, mais il y est simplement pour accomplir un besoin. Ou plus encore, comme un voyageur. Il ne fait que passer. Il ne recherche pas à s'établir dans ces contrées qu'il traverse. Et c'est ainsi que doit être le croyant dans ce bas monde. Il sait qu'il n'est que de passage, comme un voyageur. Donc il ne s'attache pas à celui-ci. Et Ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, cette recommandation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a grandement touché. Et il disait quant à lui: lorsque tu atteins le soir, n'attends pas le matin. Puis lorsque tu atteins le matin, n'attends pas le soir. Profite de ta santé avant ta maladie et de ta vie avant ta mort. Et ceci est également une recommandation immense de la part de ce noble compagnon, radiyallahu ta'ala anhu. Lorsqu'il dit, lorsque tu atteins le soir, n'attends pas le matin. C'est-à-dire, s'il y a une œuvre que tu peux accomplir le soir, n'attends pas le matin pour l'accomplir. Ne te dis pas, je ferai cela demain. N'attends pas le matin pour accomplir cette œuvre. Car si tu fais cela, tu auras alors ajourné cette œuvre de bien
que tu pouvais accomplir en cette soirée. Et certes, ceci est une erreur, car comme l'on dit, il ne convient pas de reporter à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Puis il dit, lorsque tu atteins le matin, n'attends pas le soir. N'attends pas le soir pour œuvrer. La journée, elle va très vite passer. Dès le matin, accomplis ce qui t'incombe vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soumets-toi à ses ordres et délaisse ses interdits. Œuvre dans le bien dès que tu te réveilles le matin. N'attends pas le soir pour regretter et dire « Voilà encore une journée qui est passée, j'aurais pu faire ceci et cela, mais je n'ai rien fait. » Comme est la situation de nombre de personnes parmi nous qui ne se rendent pas compte de la valeur du temps. Combien de fois le soir arrive et l'un d'entre nous se rend compte qu'il n'a fait que peu de bien durant cette journée. Puis il regrette. Et qu'est-ce qu'il fait ? « Demain, je ferai. » Non, n'attends pas le matin. Rattrape-toi dès maintenant. Corrige-toi et œuvre dans le bien dès ce soir. Pourquoi reporter à demain ? Accomplis ce qu'Allah te permet dès maintenant. Et n'ajourne pas les œuvres de bien que tu peux accomplir dès l'instant présent. Ceci est une des explications de la parole d'Ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhuma. On pourrait aussi l'expliquer autrement en disant, lorsque tu atteins le soir, n'attends pas le matin, car tu ne sais pas. Il se peut que tu meurs durant la nuit et que tu ne te réveilles jamais. Et lorsque tu atteins le matin, n'attends pas le soir, car il se peut que tu meurs durant cette journée. Et ceci est une chose courante et réelle. Combien de personnes nous ont quittés ? Tu les vois au soir, en bonne santé, puis le lendemain matin, te parvient la nouvelle de sa mort, suite à un accident, une maladie, ou voire même une mort subite, comme cela est devenu de plus en plus courant à notre époque. Combien de personnes se lèvent le matin en ayant de longs espoirs, pensant être encore dans ce bas monde durant de longues années, plein de projets, plein de bonnes intentions, puis il n'atteint même pas la fin de sa journée. C'est pour cela que l'on se doit de s'empresser dans les œuvres de bien, ne pas les repousser à plus tard. Car si tu repousses les œuvres de bien, tu ne sais pas s'il ne viendra pas une chose qui s'interposera entre toi et cette œuvre de bien, et que tu ne puisses plus l'accomplir. Et également, tu ne sais pas peut-être que la mort viendra te frapper avant même que tu ne puisses concrétiser ce bien que tu espérais accomplir. C'est pour cela, mes frères, qu'il convient aux croyants de s'empresser d'œuvrer dans le bien, de ne jamais retarder les œuvres de bien qu'il peut accomplir. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité les causes pour accomplir une œuvre de bien dès maintenant, empresse-toi de l'accomplir avant que ces causes ne te soient plus facilitées. Ensuite, Ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhuma, il a dit « Et profite de ta santé avant ta maladie. » Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela signifie que l'homme, lorsqu'il est en bonne santé, il est capable d'accomplir de nombreuses œuvres de bien avec enthousiasme et facilité. Les œuvres lui sont simples, pourquoi ? Car il est en bonne santé. Cependant, lorsque vient la maladie, alors il devient incapable d'accomplir ses œuvres. Ou alors, il les accomplit mais avec difficulté, fatigue, ce qui fait qu'il les accomplit avec peu d'enthousiasme. Lorsqu'il les accomplit, il est fatigué. Il a du mal à accomplir ses œuvres, et ce à cause de la maladie. C'est pour cela qu'Ibn Omar, il te dit, profite de ta santé avant ta maladie. La santé, c'est un bienfait immense que nombreux parmi nous négligent. Et celui qui veut connaître la réelle valeur de la santé, il n'a qu'à aller visiter les hôpitaux. Rends-toi à l'hôpital, auprès des malades, ceux qui ont des maladies graves, qui sont souffrants et qui rêveraient être en bonne santé pour accomplir ne serait-ce qu'un jour de jeûne ou pour prier une seule nuit. Lorsque vient le mois de Ramadan, nombreux sont ceux qui, à cause de leur maladie, ne peuvent même pas accomplir le jeûne obligatoire. Et nous sommes là, en bonne santé par la grâce d'Allah, et on ne s'empresse pas dans le bien. Et ceci est une erreur de notre part. Car lorsque vient la maladie, mes frères, on se rend compte du grand bienfait de la santé que l'on a négligé durant de nombreuses années. Ensuite, il dit, « Et de ta vie avant ta mort. » Et profite de ta vie avant ta mort. Qu'est-ce que cela veut dire ici ? Cela veut dire profite de ta vie pour œuvrer dans le bien. Tant que tu es encore présent dans ce bas monde, œuvre dans le bien afin de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de remplir ta balance de bonnes œuvres. En effet, tant que tu es encore en vie, Allah subhanahu wa ta'ala te permet d'accomplir ce bien. Mais lorsque vient la mort, il n'est plus possible pour l'homme d'œuvrer et toutes ses œuvres s'interrompent, à l'exception de trois, comme il est venu dans le hadith. Le monde continue, une science dont on profite et un enfant pieux qui invoque en sa faveur. Donc Ibn Omar, il insiste sur cela, il nous dit « Et profite de ta vie avant ta mort », c'est-à-dire pour œuvrer dans le bien. Et c'est ainsi que l'homme, il profite de sa vie. Non pas comme on entend certaines personnes, parmi les gens attachés à ce bas monde qui te disent « Profite de ta vie ». Et ils visent par cela « Profite des bienfaits de ce bas monde ». Et ceci est une grave erreur. Car ce bas monde, il est éphémère. Celui qui veut profiter des bienfaits de ce bas monde, Il en profite pour se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala, car il sait qu'il n'est que de passage dans ce bas monde, et que demain, il sera dans sa tombe, puis ressuscité, et que des comptes lui seront demandés quant à ses œuvres, et que seules ses bonnes œuvres lui seront profitables en ce jour-là. Donc vous voyez, mes frères, que ces paroles et ces recommandations immenses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que celles d'Ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, si nous les mettions en pratique, au quotidien, alors aucune difficulté de ce bas monde ne nous ferait peur. Rien ne serait difficile pour nous, pourquoi ? Car nous serons conscients que ceci n'est qu'une épreuve passagère. Et que l'objectif de ce bas monde n'est quoi ? Que de prendre nos provisions pour l'au-delà. Et Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala, il a de très belles paroles à ce sujet pour nous aider à prendre conscience de la valeur de ce bas monde. Et il dit des paroles selon le sens qu'il convient à l'homme de considérer les biens de ce bas monde comme l'argent, tel un âne sur lequel il monte. Vous voyez celui qui se déplace sur un âne. Il se déplace sur celui-ci car il en a besoin. Il a besoin de cette monture pour se déplacer. Mais son cœur, il n'est pas attaché à cette monture. Il ne l'utilise que parce qu'il n'a pas le choix. Il a besoin de celle-ci. Et il doit en être de même pour l'homme qui est croyant vis-à-vis de l'argent. Il ne l'utilise et le recherche que parce qu'il en a besoin pour ses besoins primaires, ses besoins essentiels dans ce bas monde. Mais son cœur ne doit pas être attaché à celle-ci. Et dans d'autres endroits, Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, il compare l'argent et il dit que l'homme doit le considérer comme les toilettes. C'est-à-dire que l'homme, il a besoin d'aller aux toilettes pour accomplir ses besoins. Mais son cœur n'est pas attaché à cela. Il ne le fait que parce qu'il n'a pas le choix. Il n'a pas d'amour pour ces choses. Il n'a pas d'attachement. Et c'est ainsi que tu dois considérer l'argent. Tu ne prends de celui-ci et de ce bas monde que ce que tu as besoin pour te rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ceci est la réalité de l'ascétisme. Comme on l'a dit dans des cours précédents, l'ascétisme, ce n'est pas que tu ne possèdes pas d'argent. Il y a des personnes qui ont une mauvaise compréhension à ce sujet. Ils pensent que l'ascète, il doit être pauvre forcément. Non, il se peut qu'un riche soit ascète et qu'un pauvre ne le soit pas. En effet, il se peut qu'une personne soit riche, que les biens de ce bas monde soient dans ses mains, mais que son cœur n'y soit pas attaché. Il sait que ce sont des bienfaits qui lui proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala et il les utilise dans son obéissance. Et il se peut qu'une personne soit pauvre et ne possède rien de ce bas monde, mais que son cœur soit attaché à ce bas monde et le désire. Et celui-ci n'est pas ascète. Donc comme l'ont dit certains savants, l'ascète, c'est celui dont les biens de ce bas monde sont dans sa main, mais ils ne sont pas dans son cœur. Ceci est la réalité de l'ascétisme. Et malheureusement aujourd'hui, beaucoup de gens ont fait de ce bas monde une finalité et un objectif à atteindre, et ainsi, ils se privent de beaucoup de biens. Wallahu al-musta'an. Ceci était donc une explication concise et résumée de ce hadith. On va maintenant mentionner 6 bénéfices que l'on peut tirer de celui-ci. Premièrement, on tire comme bénéfice de ce hadith un encouragement et une incitation à ne pas s'attacher à ce bas monde. Et que l'homme ait conscience que ce bas monde n'est pas sa demeure finale, mais qu'il n'est dans celle-ci que de passage. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Sois dans ce bas monde comme si tu étais un étranger ou un voyageur. » Deuxièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith la bonne méthode d'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce par les exemples convaincants qu'il donnait. En effet, ici, il ne s'est pas contenté de dire « Délaisse ce bas monde et ne sois pas attaché à ce bas monde. » Mais il nous a donné un exemple plus parlant. Il nous a dit « Sois dans ce bas monde comme si tu étais un étranger ou un voyageur. » Afin que tu comprennes que tu es ici tel un voyageur. Et le voyageur, lorsqu'il voyage, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne fait que prendre ses provisions. Il ne s'établit pas. Donc toi, tu es dans ce bas monde comme le voyageur. Tu es ici pour prendre tes provisions et non pas pour t'établir définitivement. Et quelles sont les provisions que tu dois prendre ? Ce sont les œuvres pieuses. En obéissant à Allah, en te soumettant à ses ordres, en délaissant ses interdits, sincèrement pour lui et conformément à la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith qu'il est permis d'accomplir certains actes qui sont des causes pour attirer l'attention de ton interlocuteur et qu'il soit concentré sur ce que tu vas lui dire. Et ce d'après la parole d'Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris par ses épaules. C'est-à-dire qu'il a mis ses mains sur ses épaules. Et ce afin qu'il se concentre sur cette parole et cette exhortation immense qu'allait lui adresser le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quatrièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith qu'il convient à la personne douée de raison, tant qu'il est en vie et en bonne santé, de veiller à multiplier les bonnes œuvres, et ce, avant que ne l'atteigne la maladie, ou voire même la mort, et que ses œuvres s'interrompent. Cinquièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith un encouragement, non pas seulement à accomplir les bonnes œuvres, mais à s'empresser d'accomplir les bonnes œuvres, et à ne jamais les reporter à plus tard. Et ce, à travers l'exhortation d'Ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhuma, qui a dit, lorsque tu atteins le matin, n'attends pas le soir. Et lorsque tu atteins le soir, n'attends pas le matin. Et on a expliqué le sens de cette phrase. Et dans sa deuxième exhortation, il nous a incité à profiter de notre santé avant la maladie. Car comme on a dit, lorsque l'homme est en bonne santé, il est simple pour lui d'accomplir des œuvres d'obéissance et de s'écarter des interdits, contrairement à celui qui est malade et qui n'est plus en bonne santé. Et de la même manière, l'homme, il lui convient de profiter de sa vie avant sa mort, en multipliant les œuvres pieuses, comme on l'a dit. Enfin, sixièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith le mérite éminent de Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma. En effet, regardez comme elle a été touchée par cette exhortation du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au point d'y avoir ajouté une autre exhortation de laquelle nous venons de tirer profit. Ceci sont donc quelques bénéfices que l'on tire de ce hadith. Je demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.